Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Question de la lutte contre la pédophilie, de la place de l'Église dans la société, plus spécialement à l'occasion de ces élections présidentielles, question de la crise des vocations ou du dialogue avec l'islam. Voilà l'essentiel des questions qui ont été abordées à l'occasion de cette assemblée plénière d'automne des évêques de France, qui se terminera demain 9 novembre. Parce que ces sujets sont autant de questions que se posent tout à chacun, je vous propose ce matin cette émission Décryptage. Voilà, ce matin donc pour cette émission en direct de nos studios à Lourdes, à l'occasion de cette assemblée plénière, voilà tout près du sanctuaire, je reçois ce matin Monseigneur Fonluc qui est évêque de Rodez, bonjour.
Bonjour.
Nous espérons l'arrivée de Monseigneur Echen qui est évêque de Pamiers dans cette émission. On va commencer avec vous. Alors j'aurais aimé commencer avec lui pour lui donner la parole, mais on va le faire parler en son absence. Monseigneur, vous avez eu un certain nombre d'échanges, enfin en tout cas dans le programme officiel, on voit qu'il y a trois temps d'échanges autour de la question des vocations. Et trois évêques, semble-t-il, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans la presse, sont intervenus pour en parler. Monseigneur Echen, évêque de Pamiers, donc ça tombe bien. Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon. Et Monseigneur Laurent Ulrich, qui est donc archevêque de Lille. Et Monseigneur Echen a eu un moment une interpellation qui, semble-t-il, en a fait sourire certains ou peut-être parfois interloqué d'autres. N'est-ce pas Dieu qui a choisi de nous envoyer moins de prêtres ? C'est culotté, je sais pas comment vous avez réagi, comment vous avez pris vous cette interpellation, cette question qu'a posé Monseigneur Echen.
Comme une bonne question, parce que je crois, c'est vrai qu'il nous l'a exprimé d'une manière un peu surprenante et un peu décalée, mais comme une manière de nous interroger sur qu'est-ce que nous avons à comprendre de ce que Dieu nous dit à travers une situation qui nous laisse un peu démunis aujourd'hui. Et peut-être une manière aussi d'entendre que quand on se pose la question des vocations, on risque de se poser la question d'un renouvellement continu, d'un même modèle de vie d'église. Bon, et ce que nous proposait Mgr Echen, c'était de se dire peut-être aussi que la difficulté, la souffrance que nous vivons aujourd'hui en manquant de vocation et donc en manquant de pasteur pour animer les communautés est peut-être aussi une interpellation pour nous demander ce que nous avons à déployer autrement dans la vie de nos églises, quoi.
Donc, de fait, les évêques, enfin, est-ce que c'est votre réaction à vous ? Vous en avez parlé après avec d'autres frères évêques. C'est pour vous une vraie question, en fait, de se demander peut-être que Dieu parle à travers ce manque de prêtres aussi ?
C'est en tout cas une vraie question. Dieu nous parle toujours, on a toujours à se demander ce que Dieu nous dit à travers les événements que nous vivons. Ça fait partie du travail d'intelligence de la foi et d'interprétation de notre existence, de se demander quelle parole nous dit à travers ce qu'il nous est donné de vivre. Et c'est vrai que nous connaissons aujourd'hui la vie d'une église qui diverge de celle qui nous a façonné les uns et les autres. Quand on regarde l'âge des évêques aujourd'hui, vous voyez, on est né dans une église qui n'est plus la même aujourd'hui. Et on sait très bien que l'église que nous accompagnons aujourd'hui et que nous conduisons comme pasteur est aussi en train de se transformer de manière importante. Il ne s'agit pas de ne plus chercher les vocations, et ce n'est pas du tout ce que voulait nous dire le père Echen, mais c'est une manière de nous dire qu'est-ce que nous avons peut-être à creuser dans cette situation difficile qui est la nôtre aujourd'hui.
Alors il y a eu d'autres, on imagine, d'autres échanges. Alors comme je n'y étais pas, je vais dire, c'est vous qui allez poser la question, mais peut-être pouvez-vous nous dire, vous, ce que vous avez retenu, l'essentiel de ces échanges, et puis moi je vous poserai après les questions, évidemment, que je m'étais préparé.
Oui, écoutez, je crois que d'abord ça a été un échange assez serein, on a pris du temps, ce qui n'est pas si fréquent, parce que ça fait partie des questions qui sont quand même vécues difficilement par les évêques.
Donc sans angoisse et sans,
voilà,
sans stress
temps,
particulier.
Voilà, on a pris le temps de le regarder simplement, fraternellement, avec bienveillance, en essayant, avec des apports et du coup des regards ou des sensibilités différentes, d'entendre un peu différents points de vue là-dessus. Je crois que ça nous a aidé à nous recentrer un peu sur d'abord cette conviction que aujourd'hui le Seigneur appelle. Il n'a jamais cessé d'appeler, mais aussi peut-être de se redire que l'appel il est adressé à tous les baptisés. Donc on s'est beaucoup recentré, je crois, sur cette vocation baptismale où tous, quels qu'ils soient, par le don qu'ils reçoivent en leur baptême, sont appelés à accueillir le don de Dieu et à le déployer, à lui donner une réponse. Et la réponse radicale qui est celle de la vie religieuse, de la vie consacrée ou du ministère de prêtre ou de diacre n'est d'une certaine manière qu'une réponse parmi d'autres dans l'ensemble des baptisés, quoi. Donc c'était aussi intéressant de se réinterpeller sur la manière dont on fait résonner cet appel dans nos communautés aujourd'hui, quoi. Et comment comment les chrétiens, dans leur ensemble, prennent conscience de leur baptême et comment ils se sentent invités ou appelés à lui donner une réponse particulière. Alors peut-être que là, il faut un peu distinguer, enfin je réfléchis aussi à partir de mon propre point de vue, je trouve que par rapport aux jeunes, par exemple, quand on rencontre des jeunes pour de la confirmation ou les jeunes qu'on a la chance d'accompagner un peu plus longuement dans les mouvements, dans les services ou dans les événements comme les JMJ ou d'autres rencontres, la dimension de l'appel pour leur vie n'est pas quelque chose d'évident. Ils ne se situent pas d'emblée en disant « ma vie est appelée ». Ils se situent d'abord en se disant « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce que je vais faire comme orientation ?» etc. Donc c'est toute une découverte à soutenir et à favoriser pour eux que de les inviter à découvrir que notre vie est appelée par un amour. Et quelle réponse chacun est invité à donner personnellement à cet amour?
Alors je réagis sur cette question des jeunes, parce que je ne sais pas si c'est à l'occasion de... C'est un sondage OpinionWay commandé donc par la conférence des religieux et religieuses de France, la COREF, de décembre 2015, qui était citée en tout cas dans un article de La Croix à la faveur de cette assemblée plénière, et qui disait la chose suivante, que 10% des Français auraient déjà pensé à la vie religieuse, et que 15% chez les 18-24 ans et 14% chez les 25-34 ans aurait aussi pensé à la religieuse, et du coup le service national de l'évangélisation des jeunes et pour les vocations disait c'est peut-être pas, en fait c'est que Dieu appelle, ou en tout cas cette recherche d'absolu, ce désir de se donner totalement existe encore. Alors est-ce que c'est aussi quelque chose que vous pressentez dans vos diocèses?
Chez les jeunes il y a une grande aspiration à ce que leur vie se déploie, quoi. Enfin, trouve un horizon, peut-être qu'elle soit donnée, même s'ils ne le disent pas forcément avec cette expression-là ou ce vocabulaire-là, quoi. L'enjeu pour nous, c'est notre capacité à les accompagner dans ces questions. Et souvent, on le souligne, en particulier dans les territoires où les jeunes ne restent pas forcément durablement pour leurs études, le contact qu'ils ont avec l'Église ou avec des adultes qui marchent avec eux et qui les accompagnent dans cette réflexion-là peut être parfois très ponctuel, vous voyez. Un des enjeux et une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est d'accompagner un peu des jeunes dans la durée. On les rejoint pour des temps forts, des temps forts qui sont très marquants pour eux, mais comment on peut marcher avec eux un peu régulièrement? Parce que quand on regarde l'histoire de chacun, l'histoire de sa vocation personnelle ou l'histoire de jeunes qui aujourd'hui se préparent au ministère, on se rend bien compte que cette vocation, elle mûrit dans le temps. Et il faut beaucoup de temps, il faut rencontrer des événements, rencontrer des questions, vivre des étapes parfois importantes, heureuses ou difficiles, pour que peu à peu cette question devienne vraiment une question forte, quoi.
Mais encore faut-il qu'ils viennent à vous, non? Parce qu'on imagine que dans tous ces jeunes que symbolise ou que représente ce sondage, il y en a peut-être beaucoup qui ne sont pas dans des familles chrétiennes traditionnelles et qui pour autant sont travaillés quelque part par ce désir d'absolu, par cette question de Dieu, par ce désir de se donner. Ils viennent pas, j'imagine, tous toqués à la porte de...
C'est ça, il faut qu'à un moment donné, ils rencontrent l'Église par quelque visage que ce soit, par des prêtres, par des adultes, par des animateurs, par des religieux ou des religieuses, comme un vis-à-vis qui va aussi interpeller, qui va aussi peut-être permettre de s'identifier et de formuler plus fortement sa question, quoi. Et je crois que c'est à la fois ce que nous nous attachons à faire aujourd'hui, mais dans un contexte, je le redis, où à certains endroits, l'accompagnement dans la durée des jeunes reste difficile.
Alors il y a souvent une question autour des vocations, c'est-à-dire qu'on entend dire oui, enfin voilà, en France il y a moins de vocations tout simplement parce qu'il y a moins de chrétiens, il y a moins de familles chrétiennes. Est-ce que pour vous c'est déjà un premier élément de réponse, on va dire, simple et qui justifie le fait qu'il y ait moins de vocations en France?
C'est un élément qui est sûrement important et qui joue, s'il y a moins de vocations, c'est qu'il y a moins de chrétiens. Je crois que le rapport entre les prêtres et les communautés chrétiennes n'a pas forcément beaucoup changé depuis 40 ou 50 ans. Il n'y a pas moins de prêtres par rapport au nombre de chrétiens qui demandent à ce que des prêtres les accompagnent et les soutiennent par leur ministère. Donc c'est aussi, ça vient poser en amont et voire même en premier la question de l'animation des communautés chrétiennes, de la vitalité de ces communautés. Si nos communautés sont vivantes, ont conscience de leur mission et de leur responsabilité, elles sauront directement ou indirectement, mais elles sauront faire entendre cet appel-là, quoi. Et je pense que des jeunes peuvent trouver ce goût-là de mettre leur vie au service d'une communauté chrétienne aujourd'hui. Mais ça nous rappelle aussi une autre question. Voyez, on réfléchissait, notre réflexion était assez centrée sur la vocation au ministère de prêtre diocésain. Et on se rend bien compte aujourd'hui, ce modèle de ministre ordonné pour servir une église locale qui est un diocèse, et peut-être pas le modèle le plus appelant. Hein. On voit que des jeunes réfléchissent à la vocation parfois en rentrant dans des communautés religieuses ou dans des communautés plus identifiées et où la part de la vie avec d'autres et de la vie communautaire va être très importante. Donc ça veut dire aussi qu'on a besoin peut-être aujourd'hui de retrouver ce que c'est qu'être une église diocésaine et qu'est-ce que c'est qu'être l'église de Dieu plantée sur un territoire comme un diocèse.
Alors là-dessus j'aurais une question, provoque entre guillemets, hein, c'est que on entend souvent, quand on est dans l'église, un petit peu, qu'on a déjà entendu ces débats, on entend souvent cette réflexion de dire qu'aujourd'hui les prêtres, on en croise pas mal, évidemment quand on travaille dans une radio chrétienne, même à ce micro de Vivante Église, on voit que souvent ils courent, ils sont débordés, ils sont fatigués, que c'est des vocations difficiles en fait, on essaie de faire vivre des grands territoires, et souvent on entend en contrepoint, on sait que c'est épuisant, on sait que c'est difficile, on sait que peut-être ces prêtres se dispersent, là vous dites c'est pas très appelant. On peut avoir du mal quand on est côté fidèle et pas côté évêque à comprendre ce décalage apparent entre appellerait de leur vœu en fait une nouvelle forme de vie de prêtre en fait ou de manière d'être prêtre et puis en même temps la réalité c'est que ils sont toujours un peu au four et au moulin à s'épuiser.
Votre question me suggère deux aspects. Le premier c'est que il nous faut sans doute aujourd'hui apprendre à vivre le ministère de prêtre dans les diocèses sans vouloir continuer à tout tenir, hein, ce qui n'est pas simple, parce que qu'est-ce qu'il nous faut accepter de lâcher, de vivre différemment. Mais je pense qu'il nous faut apprendre à situer le ministère des prêtres davantage relié et articulé avec la responsabilité d'un certain nombre de chrétiens laïcs investis dans l'animation de la vie des communautés, dans la mission et dans le témoignage, quoi. On a beaucoup avancé dans ce sens-là depuis 10 ou 20 ans. Je crois qu'on a encore du chemin à faire. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des prêtres sur des territoires qui sont de plus en plus vastes et on a du mal sur cette question du rapport au territoire. Mais comment faire que, et ça c'est une question qui est bienvenue dans notre réflexion, comment faire que les prêtres acceptent de ne pas être partout, hein, acceptent que des domaines de la vie paroissiale ou de la vie de la mission soient animés et portés par des laïcs, hein, et de quelle manière nous recentrer, nous, comme prêtres, dans le service qui est attendu, c'est-à-dire le service de la communion des communautés, le service de l'accueil de la parole de Dieu, le service des sacrements, qui peut nous recentrer sur le cœur, vous voyez, sur l'essentiel de ce qui est à apporter à une communauté chrétienne pour la relier au Christ.
Qui ferait le reste? Parce qu'il faut des gens qui aient du temps, et puis parfois,
il y a déjà beaucoup de monde
de l'argent aussi, parfois, pour que ces laïcs en mission vivent.
Oui, mais il y a déjà beaucoup de monde qui fait le reste. Quand on voit des équipes d'animation paroissiale ou pastorale dans l'animation des paroisses, quand on voit des animateurs en pastorale, en catéchèse, en aumônerie ou autre, il manque du monde, mais il y a aussi déjà beaucoup de monde. Quoi. Je suis quand même impressionné. Aujourd'hui, quand on regarde une paroisse, on ne va jamais rencontrer un curé. On rencontre 25, 30, 40, 50 laïcs qui sont investis de côté et d'autre. Donc il se passe déjà beaucoup de choses dans ce sens-là, mais le prêtre est encore un peu la tour de contrôle de l'ensemble. Et je pense que là, on a encore de la marge ou de l'évolution possible pour faire qu'il vive son ministère peut-être un peu plus détendu par rapport à un certain nombre d'exigences à vivre très concrètement. Voilà. Et puis l'autre aspect, ça c'était le premier aspect de la première suggestion que m'amenait votre question, l'autre aspect c'est aussi de se dire, et on a beaucoup souligné dans notre réflexion, la dimension du don. Et comme quelque chose aussi qui peut être appelant pour des jeunes aujourd'hui. On se rend compte comment les jeunes aujourd'hui s'investissent facilement dans l'humanitaire, dans un engagement qui peut être un an ou deux au service de telle ou telle cause ou en partant dans l'international, etc. Et cette vie donnée, faire cette expérience que la vie donnée, c'est-à-dire la vie où je me tourne vers l'autre et où j'oublie un peu ma préoccupation de moi, hein, et quelque chose qui fait vivre de manière très étonnante et qui peut ouvrir un horizon. Hein. Moi, je suis particulièrement frappé, par exemple, dans mon diocèse, il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec l'hospitalité des malades pendant le pèlerinage à Lourdes. C'est des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, qui reviennent complètement transformés, qui sont capables d'en reparler, qui sont capables d'inviter d'autres en disant « Viens, tu verras, c'est extraordinaire ». Et ils viennent pas là pour écouter des sermons. Ils viennent là pour se mettre au service de personnes, rencontrer des personnes plus âgées, plus fragiles, plus dépendantes, et ils découvrent la vérité et la qualité d'une relation dans une situation particulière. Alors comment ça, on est capable de le regarder avec eux, de le reprendre avec eux, comme une expérience un peu fondatrice, et qui peut, à partir de là, peut-être les interroger sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire que ma vie soit définitivement et radicalement orientée par le don.
Moi, j'avais une dernière question avant qu'on fasse une première pause musicale. Le pape François invite l'Église à être en sortie, à être dans une bascule missionnaire, il l'a dit dans la joie de l'Évangile, ouais, sa première exhortation apostolique. Est-ce que les vocations, elles peuvent venir d'ailleurs, justement, que le biotope traditionnel chrétien? Est-ce que si l'Église était plus missionnaire, eh ben, tous ces jeunes qu'on voit dans ce sondage, des jeunes qui cherchent, en fait, on en voit aujourd'hui, les jeunes cherchent vraiment une nouveauté, une nouvelle société, enfin, on le voit ne serait-ce qu'avec Nuit Debout. Alors, je ne dis pas qu'il y a des futures vocations au milieu du mouvement Nuit Debout, mais on sent cette soif d'absolu. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de vocations?
Dans une société toute faite, mais ils cherchent une manière nouvelle de
vivre
ensemble.
Est-ce qu'il y a là, quelque part, un vivier potentiel de vocation?
Souhaitons-le, espérons-le. En tout cas, on soulignait aussi que parfois, des vocations arrivent alors qu'on ne les attend absolument pas et qu'on n'a rien fait pour, quoi. Donc c'est aussi de notre part peut-être une interpellation à une capacité d'accueil, vous voyez, de disponibilité pour recevoir des jeunes qui viennent vers nous par des chemins complètement inattendus au départ.
Voilà, on va faire une première pause musicale. Je rappelle que nous sommes en direct de nos studios à Lourdes à l'occasion de cette assemblée plénière. On remercie bien Monseigneur Fonlu d'avoir été au rendez-vous, puisque finalement il est tout seul, en tout cas pour l'instant. Mais c'est pas grave, on se régale avec lui. Après cette première pause musicale, on parlera de la présence de l'Église dans la société actuelle. Et entre autres, on fera écho à un document, à un livre qu'ont publié les évêques de France il y a quelques temps, Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. C'est un peu la feuille de route des évêques de France pour ces prochaines élections présidentielles.
Présence,
la joie d'être ensemble.
Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce, pourtant je m'avance avec révérence. Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce, pourtant je m'avance avec révérence. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Qui au ciel est comparable à toi, et qui sur la terre est ton égal? Tu es élevé bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Qui au ciel est comparable à toi, et qui sur la terre est ton égal? Élevé bien au-dessus de tout, je veux m'incliner pour t'exalter. Et je tourne face à terre en présence de ta gloire. Et je tourne face à terre en présence de ta gloire. Et je tourne face à terre en présence de ta gloire. Et je tourne face à terre en présence.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église en direct de nos studios à Lourdes à l'occasion de cette assemblée plénière de l'automne, donc, des évêques de France. Et nous sommes ce matin, donc, avec Monseigneur Fonlu, évêque de Rodez. Et on espère toujours que Monseigneur Echen, peut-être évêque de Pamiers, va nous rejoindre. Voilà, c'est les aléas du direct. Dans cette deuxième partie, je voulais parler avec vous, Monseigneur Fonlu, de la place de l'Église dans la société. Alors, ce qui a provoqué le choix de ce sujet, c'est que vous avez eu une intervention hier ou une discussion autour de la thématique suivante, société et religion dans la France contemporaine, avec l'intervention d'un certain Philippe Portier, qui est sociologue et directeur d'études à l'EHESS. Alors, comme je ne suis pas évêque et que je n'étais pas, en tout cas, parmi le pool de journalistes à ce moment-là, est-ce que vous pouvez à gros traits nous dire, il ne s'agit pas de le résumer, mais peut-être en quoi vous avez été nourris par cette intervention et qu'est-ce que vous en retenez avant qu'on discute plus avant de ce sujet?
Oui. Écoutez, c'était une très belle intervention, effectivement difficile à résumer parce que c'était assez... Il nous a présenté des horizons impressionnants et de manière brillante, mais c'était une manière de réfléchir à la fois sur les évolutions de la société, en particulier les grandes mutations qu'elle a pu connaître depuis une quarantaine d'années, depuis le milieu des années 60, comment au cœur de ces mutations, des attentes s'expriment de manière vive et en même temps de manière assez différente. Et puis à partir de là, il a essayé un petit peu de définir des scénarios sur la manière d'évoluer dans la façon de construire un petit peu notre vie en société.
Donc si vous deviez retenir un ou deux points qui vous ont nourri, vous avez dit tiens, ça je...
Alors l'intérêt, c'est qu'il a cherché d'une certaine manière à nous préciser aussi qu'est-ce qui était attendu de la place du religieux dans la société. Alors qu'on se rend bien compte que c'est une des questions à la fois qui nous préoccupe et puis c'est une des questions qui n'est pas acquise.
C'est pas du tout évident, oui.
En France, on a tout le débat sur la laïcité, avec quelle posture, est-ce que c'est une laïcité ouverte qui fait place à la diversité des approches et des points de vue, ou est-ce que c'est une laïcité où on privatise au contraire tout ce qui va être plus intime, plus personnel, et donc la dimension du religieux. Et lui a insisté de manière forte pour dire aujourd'hui on est dans une société qui a... On n'est pas et on n'est plus sur quelque chose qui serait stabilisé, qui serait construit avec un horizon déterminé. On a toujours à se repréciser des perspectives. Mais les perspectives que nous cherchons à nous repréciser ne peuvent pas se limiter simplement au niveau de l'organisation concrète, au niveau de ce qu'on appellerait la justice, ou quel est le juste rapport entre les personnes, mais que c'est quelque chose qui doit aussi se construire dans le sens du bien. Il faisait cette distinction et cette nuance entre le juste et le bien. Le juste, c'est ce que la société peut organiser pour réguler, pour faire que la justice fonctionne au mieux pour l'ensemble des personnes. Mais le juste ne dit rien de la dignité des personnes. Et pour définir ce qu'est la dignité des personnes, pour définir ce qu'est le bien que nous voulons pour les personnes, on a besoin d'autres ressources. Il nous soulignait comment, en ce sens-là, les traditions religieuses sont attendues ou peuvent être attendues, en tout cas sont précieuses, pour apporter une autre dimension qui peut aussi donner sens et perspective à notre humanité.
Alors je le citais en introduction, avant cette première pause musicale, donc l'ouvrage publié par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, je disais c'est un peu la feuille de route des élections. De fait, il y a un chapitre sur la question du sens, et les évêques, en fait, puisque d'une certaine manière c'est co-signé par l'ensemble des évêques de France, même si tous ne mettent pas leur signature en bas de cette page, et donc il est posé cette question d'une grave crise de sens aujourd'hui, non pas évidemment pour dire à chacun ce qu'il faut penser et croire, mais pour se situer dans un horizon de sens. Et puis, un peu plus loin, ce texte dit « Depuis une cinquantaine d'années, la question du sens a peu à peu déserté le débat politique, laissant entendre qu'aujourd'hui, on essaie de voir comment relancer la croissance, comment s'occuper de la sécurité des Français, réformer le système éducatif, mais verrou va la maison France. Ça, peut-être, c'est quelque chose que, pour les évêques, vous interrogez la classe politique. »
Tout à fait. C'est d'ailleurs une des raisons profondes de ce document. On avait publié déjà un petit texte avant la période électorale au mois de juin qui donnait quelques points d'attention par rapport à ce que peuvent nous proposer l'ensemble des candidats. Mais il y a eu la volonté du Conseil permanent et de Mgr Pontier, son président, de travailler un texte qui nous invite à réfléchir un peu plus profondément sur quelle est la fonction du politique et quel est le sens du politique dans une société comme la nôtre. Et en particulier, quand vous rappelez la question du sens, vous voyez, c'est une manière de se dire, aujourd'hui, on se démène, et on se démène beaucoup pour essayer d'organiser au mieux notre vie ensemble. Hein, et on est capable de chercher comment vivre mieux ensemble. Hein, alors, il y a plein de dysfonctionnements qui sont toujours à rattraper, à récupérer, à rééquilibrer. Et ça, c'est l'activité de la politique concrète, quoi. Mais on a plus de mal à se dire pourquoi vivre ensemble, dans quelle perspective, dans quel horizon. Donc la question.
Mais est-ce que c'est vraiment le rôle du politique, ça? Parce qu'on a envie de dire, c'est presque une question métaphysique pour la politique, en fait. Alors.
Et c'est une question qui à la fois déborde le politique, mais qui doit animer profondément le politique. Parce que si on organise le comment vivre ensemble sans savoir pourquoi, on perd le goût du vivre ensemble. Hein. Et donc on a besoin aussi sans arrêt d'injecter, je crois que ça rejoint ce que j'évoquais précédemment de M. Philippe Portier, ça rejoint profondément ce besoin d'un horizon de sens qui a besoin d'être injecté aussi pour donner de la perspective à ce qu'on essaie de construire ensemble. Oui. Dans la question du sens, par exemple, il y a une question moi que j'ai retrouvée dans ce texte et qui me paraît très, très, très importante et très précieuse, qui est de dire par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être donné.
Oui, ça m'a étonné cette question, on va dire en période électorale.
Oui, alors aidons bien les auditeurs à l'entendre. Voyez, hein, qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être donnée aujourd'hui? Pourquoi suis-je prêt à donner ma vie aujourd'hui? Ouais. Donc, quel sens a le fait que je vive avec d'autres aujourd'hui dans un pays comme la France? Qu'est-ce que je cherche à construire avec d'autres? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Et est-ce que ce que je veux pour les miens, pour ceux à qui je tiens ou pour ceux avec qui j'avance chaque jour, est-ce que c'est quelque chose aussi que je peux vouloir pour tous? Et dans quel horizon, dans quelle perspective? Et là aussi, vous voyez, on rejoint cette question d'une... Est-ce que c'est une vie tournée simplement sur moi, en essayant de sauver au maximum tous les avantages que je pourrais pour m'en tirer de la meilleure manière possible, ou est-ce que c'est quelque chose dont je porte la préoccupation pour un ensemble? Et si je porte la préoccupation pour un ensemble, qu'est-ce que ça appelle pour moi aussi à donner de ma vie pour servir cet ensemble, pour servir le bien commun, vous voyez? Donc c'est un peu ces questions-là qui veulent être travaillées, pour se dire aussi, on peut pas se défier de la politique, hein, on peut pas s'en méfier en disant, finalement, on ne croit plus en ce qu'ils nous racontent, ou on ne peut plus leur faire confiance, ou etc. La vie politique est quelque chose de fondamental pour organiser le vivre ensemble, mais nous avons besoin que ce vivre ensemble soit nourri par une perspective. Et là encore, la place des traditions religieuses est sûrement importante pour prendre part à cette définition d'une perspective.
Mais est-ce à dire que la question que les évêques posent en fait aux chrétiens, c'est aussi de leur dire, est-ce que vous êtes prêts d'une certaine manière à donner votre vie dans un cadre politique, social français, est-ce que vous êtes prêt jusqu'à donner votre vie pour construire ce bien commun dont on parle si souvent? La question posée est quand même radicale.
C'est la question de l'évangile. Hein. C'est la question de l'évangile et je crois qu'aujourd'hui c'est peut-être une question qui résonne plus fortement.
Enfin, l'évangile, on y voit chrétiens. Toujours d'abord une dimension spirituelle, pas forcément une vision sociale ou politique.
Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Hein, ouais, donc qu'il fasse de sa vie une suite de quelqu'un qui a donné sa vie, hein, et qui nous appelle pas à autre chose que d'être disciple et d'être capable nous aussi de faire que notre vie, elle soit donnée et tournée vers nos frères. Donc ça, je crois que ça... On le sent bien dans la vie des communautés chrétiennes. Les chrétiens qui aujourd'hui prennent au sérieux l'évangile font de leur vie une vie de donner. Hein. Alors ils le font dans l'animation de la communauté, ils le font dans le service des malades, des plus faibles, des pauvres, ils le font dans l'engagement dans tel ou tel service, mais aussi dans telle ou telle association humaine ou de la vie sociale. Et je crois qu'ils ont aussi à le faire dans l'engagement au niveau de la cité, quoi, hein, pour faire que notre manière de penser la vie ensemble soit pas simplement un lieu où on irait chacun chercher son propre bénéfice, mais au contraire un lieu où on se met au service de nos frères.
Jusqu'à donner sa vie, en fait.
Donner sa vie.
Alors, il y a une autre question que je voulais évoquer avec vous. Cette fois, c'est pas dans ce texte. C'est donc, vous l'avez cité, dans cette déclaration du Conseil permanent de la Conférence d'évêques de France de 2017, année électorale, quelques éléments de réflexion, oui. qui a précédé la publication de cet ouvrage. Alors, il est dit quasiment en introduction que cette campagne électorale à venir devra éviter les risques de crispation identitaire. Alors, on entend bien en fait ce qu'il y a derrière cela, c'est la montée du Front National, voilà, on parle de montée, maintenant c'est plus qu'une montée. Il y avait donc, je crois que c'était l'année dernière, Monseigneur Dominique Ray, donc évêque de Fréjus-Toulon, qui avait fait un peu de bruit parce qu'il avait invité à une université politique Marion Maréchal Le Pen, laissant entendre que le cordon sanitaire entre guillemets ecclésial tombait. Je sais pas, les évêques, comment ils se situent sur cette question, et qu'est-ce que les évêques voulaient dire par cette phrase éviter les risques de crispation identitaire?
Mais je crois qu'ils veulent surtout dire que on est dans une période difficile et où on voit bien que de multiples manières, dans les attitudes, dans les réactions, dans les points de vue, il y a une possibilité de repli. c'est-à-dire de logique de protection, de logique d'autodéfense. Alors on n'a pas à nommer quiconque et à désigner des personnes particulièrement, mais on a en tout cas à interroger, là encore, les personnes, les chrétiens, mais ceux aussi qui sont attentifs à la parole de l'Église, interroger les personnes sur est-ce que ma fidélité ou mon attachement à l'Évangile, ou le fait que cette parole de l'Évangile soit une parole importante pour moi, de quelle manière ça oriente ma manière de me tourner vers les autres, de regarder les autres, quoi. Et vous voyez, il y a la question des migrations, il y a la question de la crise économique, il y a la question du chômage. Enfin, on est quand même dans une période où, de multiples manières, on est face à des situations que les gens vivent très durement. Le réflexe premier, c'est un peu de se protéger. Et je crois que nous, on rappellera que l'Évangile nous appellera toujours à demeurer ouvert, hein, et à chercher des chemins plutôt de relations d'ouverture et d'accueil que des chemins de fermeture et de crispation.
Ce que vous dites, c'est Mgr Fonlu qui le dit, ou globalement c'est les évêques qui le disent.
C'est dans ce texte-là, ils le disent très clairement. Nous le disons très clairement.
Et à la faveur de cette assemblée d'automne, vous avez senti, vous en parlez entre frères évêques de ces questions, vous sentez grosso modo. J'allais dire pas forcément unanimité, mais enfin une...
Je crois que globalement, on a tout à fait une même perspective dans cette parole-là, quoi.
Alors, il y a deux, trois choses qui m'ont frappé dans cet ouvrage, Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Je reviens dessus. Oui. Entre autres, c'est en introduction, enfin au début de l'ouvrage, des mots assez forts qui laissent entendre que la France serait un moment un peu clé. Entre autres, je lis page 15, plus que jamais, nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué. Et plusieurs fois, il revient dans cet ouvrage, des espèces d'appel ou de mise en garde, laissant entendre qu'aujourd'hui, la situation de la France serait un moment charnière, un moment particulièrement grave. En tout cas, plus que jamais, les mots ont un sens. Est-ce que c'est aussi l'état d'esprit un peu des évêques? Il y a une forme d'inquiétude face à un moment où la France doit se déterminer, mais ne pas se tromper.
Et en tout cas, une conscience d'une situation difficile que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, le tout début du texte dit « si nous parlons, c'est parce que nous aimons notre pays et que nous sommes préoccupés par sa situation ». Préoccupés parce que on sent bien qu'il y a une part importante de la population qui est très éprouvée dans ses conditions de vie, dans sa situation, qu'il y a aussi des inquiétudes qui travaillent l'ensemble de cette population, et que les enjeux dans les décisions que nous avons à prendre sont importants, parce que c'est pas facile d'aider une société à avancer dans une perspective heureuse, hein, et quand les indicateurs économiques sont préoccupants. Mais c'est très important aussi que nous nous interpellions, nous, sur les choix que nous faisons là-dedans, hein, ou sur les orientations que nous pouvons proposer pour, là encore, essayer d'avoir de soutenir un peu ce qui va servir la vie pour tous, quoi.
En tout cas, il y a le sentiment d'une gravité singulière de ces élections
il y a le sentiment qu'on est sans doute dans une période où l'inquiétude est forte et où la difficulté aussi pour beaucoup de personnes est très importante et où du coup il y a un enjeu à ne pas passer à côté des engagements qui doivent être les nôtres, quoi.
L'autre question que je voulais vous poser, il faut choisir, c'est cette fois c'est page 57, alors il s'agit pas d'être trop scolaire, mais de souligner qu'il y a de frappant dans ce texte. Vous laissez entendre il est dit la chose suivante: il n'y a plus, ou du moins de moins en moins, de vision anthropologique commune dans notre société. Alors, ce que j'en comprends, c'est que la France, en tout cas c'est ce que dit ce texte, les Français demain auraient du mal en fait à faire un seul peuple ou à regarder dans le même sens parce que ils ne voient plus l'homme, puisque c'est le sens de l'anthropologie, ils ne voient plus l'homme de la même manière. Alors vous pouvez expliciter cette interrogation de fond qu'on a entendu souvent au long de cette année à l'antenne et qui pose de grandes questions sur l'unité de la France à long terme.
Je pense qu'on le mesure de plus en plus. Vous voyez, la période, par exemple, du mariage pour tous a été assez révélatrice de ça, hein, entre une société qui présente une organisation de la vie sociale et de loi qui, avec la réaction que ça a provoqué de la part d'un certain nombre de chrétiens de manière forte, hein, montre bien qu'il y a une espèce de dissonance entre une lecture chrétienne de l'existence, hein, qui jusqu'à il y a quelques années façonnait encore la vie sociale. Tout le monde n'était pas chrétien, mais tout le monde était marqué et animé par des repères chrétiens qui déterminaient aussi notre manière de vivre ensemble.
Quand vous dites vision chrétienne, c'est donc une certaine vision de l'homme.
Voilà, hein, une vision de l'homme déterminée par l'évangile, hein, ou déterminée par la foi chrétienne.
Et, vous diriez pas une vision humaniste, plutôt
ou... Si, mais un humanisme chrétien. Mmh. Hein. Et donc, cette vision-là, elle est en train un peu d'exploser, elle est en train de d'éclater, et bon, il y a des tas de courants différents qui... avec des capacités fortes, parfois de pression ou d'orientation dans les décisions qui se prennent pour la vie sociale, qui prônent d'autres aspects, quoi. Voilà. Donc on peut plus, et je pense que c'est assez surprenant et parfois un peu difficile pour un certain nombre de chrétiens aussi, on peut plus considérer qu'on est dans une société où on aurait un peu co-naturellement des échos à ce que nous cherchons ou ce que nous accueillons dans l'Évangile, quoi. Donc la question se pose pour nous de comment nous situer, nous comme chrétiens et les évêques comme responsables des communautés chrétiennes, comme pasteurs, dans la manière d'entrer dans ce débat-là, quoi.
Hein. Qu'est-ce que vous donneriez
La posture qui nous est proposée ici, et la posture en tout cas qui me paraît importante, c'est celle d'être partie prenante d'un dialogue, hein, d'être partie prenante en disant voilà nous ce que nous avons à dire, voilà ce que nous proposons comme horizon à partir de notre foi et de nos convictions et de la connaissance du Christ qui accompagne notre route, en se proposant plutôt que de le situer dans une relation frontale, vous voyez, qui serait plutôt qui peut être parfois dure et en marquant un peu des oppositions, elle est de se situer comme oser clairement affirmer ce à quoi nous tenons et essayer de le situer comme un élément du débat de la vie sociale aujourd'hui.
Merci beaucoup Monseigneur Fonlu, c'est pas la fin de cette émission, mais je vous remercie quand même. On rappelle le titre de l'ouvrage, à lire, hein, c'est un ouvrage qui fait quoi? Qui fait 80 pages, ça se lit en une heure ou deux, oui, c'est assez accessible.
Si vous le permettez, oui, je rajouterai seulement, c'est à lire et à travailler, hein. Le document est complété par un tout petit questionnaire qui fait que ça peut être très précieux si des personnes, chrétiens ou entre chrétiens ou avec d'autres plus largement, veulent prendre ce document, se retrouver quelquefois pour le lire, le travailler, se l'approprier. C'est pas du tout un texte définitif, c'est plutôt un texte qui ouvre un horizon et qui aura de l'intérêt s'il est réfléchi par beaucoup, quoi.
Voilà, et c'est pas un texte que pour les évêques ou pour les intellos. Son titre c'est Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique aux éditions Bayard, Serre et Mam. On fait une deuxième pause musicale et puis on va retrouver donc Monseigneur Fonlu et Monseigneur Echen, évêque de Pamiers, qui nous rejoint. C'est la bonne nouvelle de cette presque fin d'émission, heureusement pas tout à fait, pour parler du dialogue avec l'islam.
Des étoiles, des étoiles sur le ciel, fenêtre au rire d'or où viennent se pencher. Peut-être les joies du ciel, silencieux dessins d'abeilles. J'avais faim, je suis allé. J'ai gravi des routes telles, j'ai crevé des pans de ciel. J'ai roulé dans la lumière, tout à fait coup de terre. L'air, il y eut amour de moi vers elle. Au bout de la nuit, je la suivis et je trouvais le ciel. Je suis des étoiles sur le ciel, fenêtre au rire d'or.
À Belmont-sur-Rance, 93.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, cette émission Vivante Église, donc en direct de l'Assemblée plénière de Lourdes, donc des évêques à Lourdes en cet automne. Je vous rappelle que nous sommes en plateau avec Monseigneur Fonluc, évêque de Rodez, et Monseigneur Echen, donc évêque de Pamiers, qui nous a rejoint. Je le disais avant cette pause, la dernière partie sera consacrée donc à la question du dialogue avec l'islam. Alors, dans votre programme, il est noté, entre autres, que vous allez en parler ce matin avec l'intervention du président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui est le cardinal Torrent. Mais vous me disiez pendant cette pause que vous en avez parlé au début aussi, et que il y a une espèce de... Vous vouliez revenir en fait sur les différents éléments d'actualité, et que vous avez défini comme une position commune ou une manière de gérer ce dialogue avec l'islam. Alors, Monseigneur Echen, qu'est-ce qu'il est ressorti de ce point d'actualité de début d'Assemblée plénière?
C'est vrai qu'au début, comme toujours, quand on se retrouve, y compris dans tous les groupes auxquels on prend part, on se dit ce qui a marqué l'actualité des mois et des semaines écoulées. Alors effectivement, pour nous, au cœur de cet été, il y a eu l'assassinat du père Hamel. Et c'était le moment d'ailleurs où on partait avec des jeunes au JMJ. Et donc c'était aussi très marquant parce que les gens nous interpellaient dans le cadre des JMJ en nous disant leur solidarité et puis notre compassion. Et en même temps, on prenait la mesure qu'il y a bien des pays dans le monde qui sont marqués par de tels attentats depuis longtemps, sans que parfois on y ait bien prêté attention, parce que notre réalité française et européenne était plus paisible. Mais ce qui ressort surtout, moi je dirais en deux mots, dialogue avec l'islam, peut-être que je ne formulerai pas comme cela, on est plutôt dans un dialogue avec des musulmans, avec lesquels on vit au quotidien, et notre responsabilité d'hommes et de croyants et de chrétiens, de disciples de Jésus, c'est de dialoguer avec toute personne. Mais il y a une telle diversité parmi ces musulmans d'appartenance que c'est difficile d'essentialiser l'islam comme si c'était une chose monolithique. Donc on dialogue avec des gens qui sont référés à tel ou tel courant, qui vivent dans notre pays, ce qui les positionne autrement aussi que s'ils vivaient au Maroc, en Algérie ou au Pakistan. Et donc notre défi de toujours, mais renforcé par cette actualité marquée par de grandes violences et par des guerres qui s'intensifient là en Irak, en Syrie, notre responsabilité de toujours, c'est de dialoguer avec tout homme. Et parmi ceux avec lesquels on vit aujourd'hui, il y a des gens référés à la religion musulmane d'une manière ou d'une autre.
Donc dialogue, enfin voilà, favoriser le dialogue, mais comment dire, acter le fait que ce dialogue est d'abord avec des personnes, et puis avec des personnes extrêmement diverses, si je dois résumer,
voilà,
en fait, c'est ça?
C'est ça.
Je me disais qu'en introduction de ce débat, ça serait intéressant de rappeler quelle est la posture de fond de l'Église par rapport à l'islam. Alors, ce que l'un ou l'autre veut le faire, je citerai peut-être en introduction la déclaration Nostra Aetate, donc qui est cette déclaration du Concile Vatican II sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Et il est dit la chose suivante: l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et qui a parlé aux hommes et aux décrets duquel, même s'ils se sont cachés, il s'efforce de se soumettre de toute leur âme, comme il s'est soumis à Dieu Abraham, à qui la foi islamique se réfère volontiers. Donc il y a quand même une grande ouverture. Même cette déclaration, pour nombre de catholiques pratiquants aujourd'hui, parfois elle pose question, on se dit mais on se dit qu'est-ce que disent les évêques ou qu'est-ce que dit le concile. En fait, c'est pas le même Dieu. Donc, comment on peut avoir cette posture de fond?
C'est une partie de la déclaration, hein, qui est un texte. Cette déclaration Nostra Aetate, qui est un texte très important de Vatican II, qui a été signé à la fin du concile et qui est un peu comme une mise en œuvre concrète de l'ouverture du concile dans la question de la relation avec les autres religions. Et ce texte-là souligne une attitude. D'abord, l'Église regarde avec respect, hein, l'ensemble des religions et des traditions qui sont une manière qu'a l'humanité de se tourner vers Dieu, quoi, dans des traditions ou dans des courants différents. Là, vous avez repris le paragraphe qui développe sa relation à l'islam, et en soulignant un peu des points communs sur un lieu unique, sur des pratiques qui sont pas très éloignées, qui sont même parfois très proches de notre propre pratique. Mais cette question-là, c'est une manière de dire que il y a aujourd'hui une diversité de chemins vers Dieu, hein, qui sont portés par des grandes traditions, et que nous avons aujourd'hui à nous engager, et c'est une résolution prise très fermement et très clairement par les évêques au Concile et donc par l'Église catholique depuis, nous avons aujourd'hui à nous engager dans un chemin d'accueil, de respect, de considération et de dialogue avec ces traditions différentes, parce que l'autre qui est vis-à-vis de moi est celui que je rencontre concrètement, qui accède à Dieu par un autre chemin que le mien, me dit aussi quelque chose du mystère de Dieu et peut venir interpeller ma propre manière de m'ouvrir à Dieu.
Alors ça, on va dire, on l'entend parce que c'est la teneur du dialogue avec l'islam, en fait. Oui. Mais est-ce que vous entendez aussi ces chrétiens, en tout cas nous on les entend à l'antenne, même certains viennent, qui disent que ils sont un peu, comment dire, dubitatifs face à cette posture, demandant aussi est-ce que peut-être soit clarifié autant ce qui nous unit que ce qui nous sépare, ne donnant pas l'impression peut-être que ce dialogue est un dialogue, pas très franc.
Oui, mais quand on dit ça, on réagit sur des questions théologiques, sur quoi nous sommes d'accord, sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Quand on rencontre des personnes, on commence pas par se dire sur quoi je suis d'accord avec toi ou sur quoi je suis pas d'accord. C'est qui es-tu et qui suis-je, et est-ce que nous avons quelque chose à nous dire? Donc oui, c'est bien évident, et il s'agit pas de se dire que dialoguer c'est chercher des équivalences ou aller vers un dénominateur commun. Dialoguer c'est se situer chacun dans sa propre tradition, mais c'est avoir de l'estime pour le chemin croyant de l'autre, hein. Et comme c'est avoir de l'estime pour le chemin humain de l'autre, et le dialogue se joue aussi avec les incroyants de la même manière, hein. Et c'est pas de dire ils ont tort parce qu'ils sont incroyants, mais ce sont des hommes qui cherchent à se tenir humainement avec des perspectives, avec un horizon, avec une densité de vie humaine qui parfois est très impressionnante, qui ne partagent pas la même signification, le même horizon de sens de leur vie, mais qui pourtant ont quelque chose à me dire, et à qui j'ai quelque chose à dire. Vous voyez, c'est plutôt trouver un chemin où on va s'enrichir chacun de sa propre richesse, plutôt que de chercher à se convertir absolument ou avoir raison par rapport à l'autre.
Chercher à se convertir, est-ce que un des autres piliers du dialogue avec l'islam, c'est aussi d'oser l'évangélisation des musulmans, ou est-ce que ça c'est quelque chose qui est difficile à dire ou à vivre, ou qui est un peu hors sujet, Monseigneur Hichem?
Alors, l'évangélisation, tout dépend de ce qu'on met un peu derrière ce mot-là. C'est vrai que si on met derrière évangélisation une démarche de prosélytisme que pointe souvent du doigt le pape François, bien sûr, là on n'est pas dans le dialogue, parce qu'on n'est pas dans une rencontre gratuite avec l'autre, on est dans une rencontre qui est en vue de l'amener dans notre chemin ou de le faire adhérer à notre corps de croyance. Si évangélisation, ça veut dire se reconnaître comme disciple de Jésus et être témoin de ce Christ que l'on porte en soi dans toute rencontre que l'on vit avec tout homme et toute femme, certainement. Mais il y a cette idée aussi, en termes d'évangélisation, celui qui est à évangéliser, au point de départ, c'est moi-même, j'ai chaque jour à devenir un peu plus ou un peu mieux chrétien, et souvent en mettant ma foi en rapport avec une autre foi, j'apprends à mieux me connaître moi-même. Et j'ai toujours en tête dans ces dialogues la démarche du père de Foucault, qui d'une certaine manière était de culture chrétienne, mais avait abandonné aussi dans ses références de vie cette référence au Christ, et qui a redécouvert au point de départ sa propre foi à travers le témoignage de musulmans authentiques qu'il rencontrait. Et il a été impressionné par la démarche de foi et de vie de ces gens, et il s'est dit « Qui suis-je, moi, au fond ?» il a redécouvert sa foi chrétienne, et avec quelle intensité de foi en l'Eucharistie, qui n'est pas du tout la foi des musulmans qu'on rencontre. Donc parfois on est habité de peur, on se dit dans le dialogue avec l'autre, on va se perdre. Mais en réalité on ne se perd pas, on se trouve et on se connaît mieux soi-même, et on se réapproprie mieux sa propre foi dans le dialogue. Comme toujours, le dialogue ne fait pas nous perdre notre identité, mais il nous fait mieux la comprendre et mieux la retrouver. Alors, c'est vrai que certains chrétiens, et on a des retours de cette nature-là, nous disent, mais est-ce qu'on peut vraiment dialoguer avec des musulmans? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, au contraire, être dans la confrontation un peu nette? Et enfin, à un certain moment, il m'arrive de dire à ces chrétiens, écoutez, même si on partait du constat qu'on ne peut pas dialoguer, de toute façon, le seul chemin que nous propose le Christ et son évangile, c'est le dialogue. Alors, même si on ne peut pas le faire, on le fera quand même.
Monseigneur Fonlu, peut-être, est-ce que vous avez une dernière réaction avant qu'on finisse cette émission?
Le cardinal Thoran dit souvent, et peut-être qu'il va nous le redire ce matin, mais je l'ai souvent entendu exprimer, le fait que nous sommes condamnés au dialogue, et on n'a pas d'autre chemin possible aujourd'hui que de prendre le chemin du dialogue. Et en disant ça, il souligne aussi comment l'enjeu du dialogue avec les musulmans, mais aussi avec les autres traditions, on pourrait parler de la même manière du dialogue avec le judaïsme, hein, ou avec les autres religions, est aussi une contribution que les religions doivent pouvoir apporter aujourd'hui à un vivre ensemble, qui soit un vivre ensemble pacifié, quoi. Vous voyez bien comment ces éléments-là peuvent participer parfois à une crispation. On parlait des crispations tout à l'heure, hein, et on voit bien comment aujourd'hui la présence de musulmans et de l'islam en France peut provoquer beaucoup de crispations. Mais je crois que la place que nous avons, qui est une place modeste, hein, mais qui est une place pourtant fondamentale, c'est de dire le chemin que nous avons à vivre avec nos frères musulmans, avec ces hommes et ces femmes qui partagent la foi de l'islam, c'est un chemin qui doit nous faire vivre ensemble relations pacifiées et qui vont servir aussi à la paix de la société à travers ça.
Eh ben, merci beaucoup donc aux deux évêques d'être venus ce matin, donc Monseigneur Fonlu, évêque de Rodez, et Monseigneur Echen, évêque de Pamiers. Je rappelle le titre de l'ouvrage qu'on a pas mal cité, Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, livre donc du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France aux éditions Bayard, Serre et MAM. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Quentin Espitalier et Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou par mail à contact@radioprésence.com.